la musique.
Carabanana maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil. Vive
les oreilles.
Libre. Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et ailleurs partout dans le monde. Radio-libertaire.net, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Et ça va être très curieux aujourd'hui hein, avec le Festival Crac. Bonjour Laurent Pascal.
Salut.
Notre ami, tu ne parles pas très fort, Laurent, si ?
Bah, je parle normalement.
Et bien, je te laisse présenter nos invités, Laurent.
Eh bien, Églantine à ma gauche, Louis Laurin.
Bonjour.
Bonjour, qu'on a déjà reçu, j'allais dire, moult fois, il ne faut pas exagérer, mais enfin, Louis Laurin est venu plusieurs fois, Églantine aussi, pour le festival Crac, notamment. Et puis, Louis, on a fait une émission avec toi pour présenter ton travail il y a quoi, un an ou deux. Bienvenue pour le Festival Crac. Je voulais te demander, Christophe, est-ce qu'on capte Radio Libertaire au pôle Nord ?
Oh bah, certainement.
Certainement, oui. Bah, je crois qu'ils ont Internet et tout.
Bien entendu.
Ah bon, bah, super. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre en début d'émission ? Peut-être qu'on peut commencer par désannoncer le morceau.
Alors, on n'a pas écouté en entier, mais on a écouté un extrait d'un disque du groupe AMM avec John Tilbury et Eddie Prévost. Et c'est un disque qui est paru sur le label d'Eddie Prévost qui s'appelle Matchless Record. Et le nom du disque, c'est un disque qui a un nom en polonais, donc que je vais massacrer, qu'on dit Spanski Borski, et qui veut dire, pour les gens qui parlent polonais, ils auront très bien compris sans doute, la traduction c'est, en anglais je l'ai dit, Spanish Fighters.
Voilà. Les combattants espagnols.
Les combattants espagnols, ouais. Donc, du coup c'est pas mal, on est sur Radio Libertaire, j'ai choisi un morceau de circonstance.
Et en plus il se trouve que le duo joue...
Voilà, bah c'est aussi pour ça que j'ai décidé de le passer
au festival, donc c'est raison de plus quoi. Bon, après voilà. Ça c'est secondaire, mais... Et AMM, je crois que personne ne sait ce que ça veut dire.
Eh bien, en tout cas, pas moi.
Non, mais vraiment, je crois qu'il garde jalousement le secret, hein, ouais. À ma connaissance.
Très bonne stratégie.
On a fait des recherches avancées. Ouais, c'est vrai. Mathieu Saladin, Jacques Auger sont sur le coup, mais personne ne sait ce que ça veut dire.
Eh bien, il y a John Tilbury va venir pendant, et Eddie vont venir pendant deux jours. On va essayer de leur soutirer discrètement les
faire boire. Parce qu'à mon avis, spontanément, ils
vont pas voir. Et puis, on reviendra sur les mots.
Est-ce que c'est fiable ?
On reviendra.
Oui,
si on reviendra.
Nous, on vient de prendre l'info parce que là, c'est un scoop Radio Libertaire. Ouais.
Enfin, c'est une annonce d'un futur scoop.
Mais on l'a pas fait encore. On verra si on peut le faire. AMM. Alors, le Festival Crac, c'est bientôt. C'est la sixième édition.
Ouais, absolument.
Créée en 2012 mm-hmm. par l'association Babel.
Voilà.
Babel avec deux B, enfin trois B en fait, mais donc
deux B
au milieu. Saint-Méry avec un coin Y, un coin I, un peu comme on veut.
Ouais, c'est ça, c'est un petit peu comme on veut, ouais, tout à fait.
Ça, c'est l'église dans lequel ça se passe. C'est vrai que la première fois qu'on vous a reçu, c'était un peu étonnant. Et puis après, on s'habitue et on se rend compte qu'en fait, c'est super cette église Saint-Méry. Donc toi, Églantine, ouais, puisque tu es là, bah, tu peux peut-être nous présenter Babel, Saint-Méry, les rendez-vous contemporains. Un peu, j'ai pas une grande, enfin une petite fresque historique quoi, comme ça.
Chronologique. Alors tout a commencé en fait avec les rendez-vous contemporains, mm-hmm. qui est une série de concerts de musique, de création sur la création sonore, on va dire de façon générale, pour pas délimiter les choses. Donc un qui a lieu donc à Saint-Méry, à la demande de la paroisse. C'est une paroisse très particulière, Saint-Méry. Hein, oui. C'est une paroisse, vous savez.
J'ai commencé à comprendre ça,
voilà, hein. c'est une paroisse où il n'y a pas de hiérarchie. C'est une paroisse où il y a bien sûr un curé.
Sans Dieu ni maître.
Sans Dieu, bon.
Je peux pas parler. Dieu quand même planqué quelque
ouais,
part. À mon avis,
il
doit s'y saouler. C'est pas son genre de pas être là.
Moi, je dis plus rien parce que je me suis fait remonter les bretelles après mon passage sur France Musique, donc je ne dis plus rien.
Non, non, mais c'est une paroisse qui est un petit peu différente, effectivement, parce qu'elle est, en fait, elle est gérée.
Au cœur du Marais, on peut dire aussi.
Le cœur du Marais, tout à fait. Elle est gérée par une communauté et non pas uniquement par un curé, en fait. Donc, il y a quand même un curé, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est aussi une mission.
Qui passe aussi, qui
voilà,
chelou,
et c'est une mission en fait que leur a donné l'archevêché. Bon, voilà, hein, effectivement, on est plus dans la... on utilise des mots terribles, terrible, terrible, qui est d'accueillir en fait la création contemporaine. Donc voilà, donc les rendez-vous contemporains se chargent de la musique et ensuite on a créé l'association qui chapeaute tout ça, qui s'appelle Babel effectivement. Okay. Et on a choisi de faire un événement un peu visible, un peu marquant dans l'année, donc ce festival Crack, où on a un peu plus de moyens du coup pour faire venir ou revenir en fait des projets qu'on a aimés pendant l'année. Ou qu'on a envie d'entendre en fait, ou de présenter à un public qui est assez nombreux en fait, hein, dans ces musiques là donc voilà. Voilà, puis on fait d'autres activités, mais bon, on va peut-être pas parler.
Ou au fur et à mesure, on parlera des ateliers d'improvisation. Mais quand même, moi, je voulais qu'on revienne sur cette histoire de. Dès le départ, tu as dit à musique, on va peut-être pas trop restreindre, on va parler de création sonore. Ouais. Il y a toujours l'idée, là, je lis la présentation, les musiques entre les mailles, inclassables dans le cadre du cloisonnement actuel des genres musicaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'est d'abord parce que c'est quand même une réalité en fait.
Entre les mailles, c'est quoi? C'est-à-dire que les médias dominants ont tendance à mettre des étiquettes.
Les médias et surtout les institutions produits. Publiques.
Les lieux de diffusion.
Il faut une étiquette. Ouais. Généralement, quand on a un programme de festival, il y a écrit musique, jazz, variété, musique du monde. Enfin voilà, c'est ce qui est en fait, en réalité.
Réducteur.
Non seulement réducteur, mais absolument pas représentatif de ce qui se passe.
Ah oui.
Et aucun musicien, en fait, n'a envie de labelliser sa musique. Je crois que c'est très rare, en tout cas, quelqu'un qui dit je
ça,
fais du
vrai.
Jazz.
Mais en revanche, les spectateurs, voilà. Enfin, je veux dire, ceux qui programment, ils ne s'adressent pas aux musiciens, ils s'adressent
et
aux
nous,
spectateurs.
Et nous, on pense que le spectateur est capable aussi de savoir que. Oui, alors, ah bon, effectivement, c'est vrai qu'on donne des repères. On va pas faire croire qu'on va écouter la variétoche à Saint-Méry, c'est faux.
Encore que l'Ansem, on y reviendra, mais non, je fais
l'Ansem évidemment dans la variété, c'est très célèbre.
C'est pour rigoler, pour détendre un peu l'ambiance.
C'est ça. Non, c'est vrai qu'effectivement, au niveau d'esthétique, on fait pas croire quand même qu'on fait des choses normales, exactement. Voilà, ouais. ça serait mentir au public et accrocheur et pas forcément le but. En revanche, on affirme faire une musique de création, de la musique de recherche, etc. Mmh. Mais on essaie en tout cas de ne pas la réduire à des étiquettes, c'est tout.
Ouais, et puis c'est vrai qu'on va le voir en rentrant dans le programme, qu'il y a des tas d'artistes qu'on ne retrouve nulle part ailleurs ensemble, enfin, qui sont chacun dans leurs univers et qu'on ne va pas souvent voir réunis à la même affiche, quoi. Ça c'est pas mal déjà. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Un festival international, donc ça on l'a compris.
Ouais.
Je crois en fait c'est international parce que c'est vu que c'est un réseau, ce réseau de musique dont on parle qui est très large en fait. Du coup, assez rapidement, ça devient un réseau qui s'ouvre à l'international parce que c'est des petits réseaux et du coup, en tout cas, c'est européen. Après, on a la chance d'avoir un groupe américain, ce qui est assez rare parce qu'en général, c'est assez compliqué de faire venir des Américains parce qu'on a un petit peu de budget, mais pas non plus assez pour faire venir des gens outre-Atlantique. Ouais. Et on a eu la chance là d'avoir des propositions, notamment pour le concert de John Gibson. On pourra peut-être en parler un peu plus en détail tout à l'heure quand on écoutera un extrait de son. De la musique qui joue. Donc du coup oui, c'est ça une dimension internationale. Après c'est moi je me place en tant que musicien là, c'est un réseau qui est très ouvert en fait sur le qui est transfrontalier et tout ça. Bien parce sûr, que c'est obligatoire parce qu'il n'y a pas énormément de lieux de diffusion
et si puis on veut... aussi parce que c'est cohérent avec le projet de recherche dont tu parlais tout à l'heure, de pouvoir on a besoin de croiser les regards, on a besoin de d'ouverture et de mélange pour inventer, pour progresser, etc. Et du coup, dernière question sur la présentation, là, je lisais, affranchi des définitions politiques et s'inscrit dans une démarche militante. Alors, pourquoi? Enfin, ça m'a l'air contradictoire, mais vous allez m'expliquer.
Alors, on n'est pas des spécialistes de la
présentation.
Si, si, on est des... Non, pas de la présentation, mais en tout cas les termes politiques. Mais je pense que la démarche militante, elle vient... Je sais pas si vraiment notre démarche est militante au sens strict du terme, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me semble, c'est que c'est moi par exemple, mon métier c'est de faire de la trompette, et l'organisation de m'occuper de la programmation par exemple de ce festival, c'est quelque chose. Je pense que pour que vu que je joue dans ce réseau des musiques expérimentales, aussi parfois du jazz, aussi d'autres musiques, je pense que pour que cette musique soit diffusée, il faut aussi qu'il y ait des gens qui l'organisent, en fait, qu'il y ait des lieux. Et je pense que
Et
du coup, la démarche militante, pour moi, c'est plus de donner de son temps pour quelque chose auquel on croit, qui n'est pas forcément quelque chose qui est forcément rétribué ou qui est rémunéré. C'est plus, je pense que c'est assez symbolique, en tout cas, parce que la dose de travail qu'on fait dans ces projets, alors on peut la dose d'énergie qu'on met, par exemple, dans des projets comme l'ONSEM, qui sont des très très gros ensembles, c'est de l'ordre de militantisme, parce que les retombées sont pas à la mesure de l'investissement. Donc je pense que c'est vraiment une histoire de un vrai engagement, en fait. Après, je sais pas s'il est vraiment politique, en tout cas il est musical, et je pense que vu que nous notre métier, il est le message qu'on transmet, il est pas forcément politique, parce que on donne pas des messages, on transmet pas des messages politiques, mais en tout cas on essaie de faire passer certaines idées, et par exemple ne serait-ce que dans la façon dont on a d'essayer d'accueillir les gens aussi, de faire en sorte que ça se passe bien, des tarifs aussi qu'on prévoit. Je sais que j'étais passé à France Musique, et quand il a dit les tarifs, il a regardé, c'est pas cher, c'est 10 et 15 euros. Donc en fait, 10 et 15 euros pour la plupart des concerts, en fait, normalement quand on va voir des concerts, c'est quand même, si vous allez dans des grandes salles, c'est pas 10 ou 15 euros.
Mais 10 ou 15 euros, c'est quand même. Un plateau comme ça, quoi.
Voilà. Et enfin. C'est pour clarifier un tout petit peu ce que tu disais.
Parce que ça fait forcément écho aussi avec cette émission. Je pense que c'est la même chose.
Mais en plus, je crois qu'il y a une dimension. Enfin, quand on parle on dit le terme politique là dans notre comité de presse, en fait, c'est ça dont tu parles, Laurent.
C'est peut-être de présentation qui est sur le programme.
Oui, voilà, c'est clair. On parle de politique culturelle, encore une fois, tout ce qui est hérité de Malraux, de la verticalité, de l'élitisme, le haut choisit ce que le bas doit écouter. Nous, on est contre. Mais vraiment de façon très claire, complètement contre. On revendique une approche horizontale. On considère que et le public, et les musiciens, et les gens qui travaillent sur ces musiques-là, comme moi, enfin les gens qui font de la production, etc., sont au même niveau, et que les uns doivent écouter les autres. C'est aussi simple que ça, en fait. Dans ce sens-là, il y a pour le coup, je pense, une dimension qui est relativement politique.
Oui, voilà, c'est ça. Politique au sens large, mais pas au sens étroit. Partisan ou quoi, on s'en fout. Très bien. Bon, on peut peut-être. On peut peut-être donner les dates. D'abord.
Alors, je pense que c'est bien.
Puisque on en parle depuis un moment, on n'a pas précisé que c'était le 21 septembre, le 22 septembre et le 23 septembre. Donc, jeudi, vendredi et samedi. Très bientôt à l'église Saint-Méry, 20h30. On reviendra de façon sur les détails au fur et à mesure. Déjà, c'est pas mal de dire les dates et le lieu. Et puis, pendant qu'ils disputent en régie, on va peut-être écouter un morceau de musique.
Alors, on va écouter un extrait. Le prochain morceau, c'est un extrait de l'ONSEM, qui est un grand ensemble d'une trentaine de musiciens, qui a été réuni par Frédéric Blondy, qui est aussi. Qui travaille aussi, qui s'occupe aussi du festival Crack, mais cette année il est au Japon, donc c'est moi qui m'en occupe. Voilà. L'ONSEM, donc c'est un grand orchestre.
On en parle après. L'ONSEM, O-N-C-E-I-M,
c'est un acronyme, on vous le donnera à la fin de l'extrait.
Absolument.
Voilà.
Eh bien, l'ONCEM sur Radio Libertaire dans les oreilles libres, O-N-C-E-I-M. Alors, ça veut dire quoi maintenant? Parce que ça change chaque année. Vous avez...
Non, c'est pas non, vrai. Ouais, ça a changé une
je
fois.
Je taquine hein, parce que j'adore
en
l'ONCEM.
En 2011.
Ça veut dire orchestre de nouvelles créations, d'expérimentation et d'improvisation musicale. Yes. Et au début, ça s'appelait Orchestre.
Non, mais on s'en fiche.
Non, alors,
on va pas faire l'historique. Bon, alors, et par contre, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? Donc, l'ONCEM, il jouait quoi?
Alors, on vient d'entendre une improvisation de l'ONCEM, qui donc est un grand groupe d'improvisation. À la base, c'est comme ça, ouais. C'est cette idée, il a été construit sur cette idée. C'est une improvisation qui a été enregistrée, je crois, en 2015 à l'église Saint-Méry, qui est un petit D'accord. peu l'antre de l'ONCEM dans laquelle on répète et on travaille. Et c'est une improvisation qui porte le titre de Laminaire numéro 1.
Alors, voilà. Laminaire.
Alors c'est une ça a été labellisé par Frédéric Blondy qui n'est pas là, et donc c'est une fois de plus une question à laquelle je ne peux pas répondre. Ah, je ne sais pas ce que c'est. Toi tu sais ?
Ouais, toi tu sais.
Non mais vas-y.
Laminaire c'est les algues hein, ouais. C'était quelque chose de très visuel pour le coup hein. Imaginez en fait Bon, imaginez ce que vous voulez en fait après tout.
Non, vous avez entendu un morceau, je veux dire, donc on peut se faire aussi à l'écoute de ce morceau un certain nombre de d'images,
ouais.
Et notamment parce que le propre de ces laminaires là, ces algues là, c'est qu'elles ont des espèces de fils comme ça un peu longs qui flottent. Donc ça veut dire que ça, je pense que c'était l'idée du morceau aussi que d'avoir des espèces de couches qui vont plus ou moins s'entremêler ou être plus ou moins indépendante, mais quand même faire une masse. Et... Ouais. Enfin, à mon avis, le titre est quand même signifiant. C'est pas.
Je pense
c'est
que c'est
déconnecté.
C'est assez représentatif du travail qu'on fait dans l'ONCEM. Moi, je joue de la trompette dans l'ONCEM,
ouais.
Donc j'en parle un petit peu en tant que musicien et pas en tant que programmateur là.
Okay.
Il y a énormément de. C'est très compliqué d'improviser de la musique à.
Avec autant de gens,
surtout que c'est des gens qui ont l'habitude d'improviser et qui ont aussi l'habitude de beaucoup jouer quand ils improvisent.
Et, oui,
et donc, du coup, il y a
Tout seul ou dans les petits groupes.
Et du coup, là, c'est vraiment quand ça marche, parce que des fois ça arrive, vu que c'est des improvisations, parfois ça peut pas échouer, mais en tout cas, ça peut ne pas vraiment prendre. Quand ça marche, c'est vraiment une sorte de pensée collective. On atteint un espèce de niveau de pensée collective qui se structure d'elle-même. Par différentes règles qui sont à la base des règles un peu implicites, mais qu'on, justement quand on répète, on les travaille. C'est des règles d'écoute, des règles de clarté aussi dans le discours. Donc, c'est-à-dire que quand on donne une information de l'intérieur en tant qu'improvisateur, il faut que cette information, elle soit si possible audible pour d'une part les membres de l'orchestre qui puissent réagir ou ne pas réagir, en tout cas adapter une stratégie en fonction de... Hein, et puis ensuite que cette information musicale, elle arrive aux oreilles des gens. Et que du coup, elle soit entendue, et après, les gens, ils voient des laminaires ou ils voient des. Toutes sortes de choses. Ça, c'est à eux qui vont faire ça dans leur tête.
Oui, après,
ou rien
sûr.
Du tout.
Non, mais que, après
rien
que l'imaginaire est ouvert,
voilà.
on invente ce qu'on
mais
veut. Dans la démarche aussi,
ouais,
le processus de création de ce son-là, il y a cette idée à la fois d'avoir des individualités autonomes qui peuvent proposer, mais en même temps qui ont la responsabilité aussi de, du tout.
Mais c'est vraiment c'est vraiment très intéressant comme démarche de travailler dans l'ONCEM, parce que c'est très contraignant. Il y a énormément de contraintes, c'est toujours un travail très très lent, très très long. Là, la pièce qu'on va jouer pour le Festival Crack, c'est donc une pièce qui a été... C'est une proposition de John Tilbury. Mm-hmm. On lui a demandé d'écrire quelque chose, enfin de nous donner une proposition. On a travaillé pendant 3 jours et on a présenté la pièce au Festival Météo, qui est un festival de musique à Mulhouse.
On a parlé, je crois, en juin. Enfin, ça fait quelques années.
Voilà. Et du coup, là, dans cette... Alors, j'en profite pour la présenter.
Deux, hein,
c'était fin août. Ouais. J'en profite pour présenter. Donc, on va rejouer cette pièce. Ouais. C'est donc John Tilbury, qui est donc le pianiste de Daem, le premier extrait qu'on a écouté. Il a travaillé sur donc un texte de Beckett qui s'appelle Sang.
Ouais,
S-A-N-S, qui est un texte en français. Et c'est un texte qui est divisé en une trentaine de paragraphes, je dirais. Chaque musicien membre de l'ONCEM est venu lire un paragraphe qu'il a enregistré. Et du coup, mis bout à bout avec les voix de chaque musicien, ça a créé une sorte de une bande son, enfin en tout cas la récitation du texte intégral. Et nous, on a, en travaillant avec John, il nous a en gros donné quelques consignes qui étaient c'était des consignes qui étaient très très libres. Mais en gros, il faut que le texte soit primordial, mais la musique ne soit pas secondaire. En gros, c'était ça.
Le texte est diffusé,
un petit peu spatialisé sur plusieurs enceintes, et chaque musicien. Alors, je vous donne pas toutes les clés de la. Je garde un tout petit peu de mystère.
Venez le vendredi 22 septembre.
Voilà.
De toute façon, c'est difficilement imaginable.
Et du coup, non, mais ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, c'est que c'est un travail qui est très très lent, parce que c'est d'arriver à avoir une vision globale de ça, puis surtout en 3 jours, produire arriver à produire une pièce comme ça, une forme, et trouver du sens là-dedans, en tout cas un sens musical, que chaque membre de l'orchestre trouve sa place et trouve pourquoi est-ce qu'il fait telle chose à tel moment. Ouais, c'est assez long, et parfois ça passe par des épisodes de frustration assez intenses. Mmh. Et puis toujours, au bout d'un moment, ça finit par... Je trouve que c'est souvent avec l'ONCEM, ouais. c'est assez
long à accoucher, mais...
c'est toujours long à accoucher, mais ça, il y a toujours quelque chose qui sort, et c'est, moi je trouve, c'est quelque chose de très intéressant.
Et c'est aussi cohérent, je crois, avec le texte de Beckett qui aussi interroge là. Sur,
le texte de Beckett, en fait, s'il y en a qui le connaissent, c'est des mots qui reviennent, et qui sont agencés dans différents ordres comme ça, et du coup on essaie de travailler un petit peu la musique et les sons de la même manière, c'est-à-dire de faire revenir des éléments, quelque chose d'assez cyclique, un petit peu comme le texte.
Super.
Voilà, donc ça sera le 22.
On est parti de la fin, on revient au début.
On va se balader de toute façon pendant toute l'émission sur le programme. Le 22, il y a aussi Tomoko Sauvage, qui est une artiste japonaise, qui va faire un solo de ce qu'elle appelle water bowl. C'est des bols en céramique dans lesquels elle met de l'eau avec des hydrophones. Ça sera le premier concert, et ensuite il y aura une...
C'est-à-dire c'est des bols effectivement dans lesquels elle met de l'eau, et c'est amplifié.
C'est amplifié, alors qu'un hydrophone, c'est un micro qui va sous l'eau. Et du coup, elle remplit les bols. Elle en a quelques-uns autour d'elle, et du coup, elle les remplit pour arriver à différents timbres. Moi, je l'ai jamais vu, en fait, mais j'ai déjà écouté des enregistrements qui m'ont beaucoup plu. Et je me suis dit que c'était quelque chose d'assez chouette dans l'église, parce que c'est aussi une contrainte de programmation de programmer.
Parce que
c'est une acoustique et une acoustique de cathédrale avec une réverb qui est très 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 longue, et du coup c'est difficile, c'est toujours très réverbérant et toujours très beau, en fait, même quand vous allez jouer un concert. C'est vrai, mais même un concert de noise, vous allez voir Caca Nul ou vous allez voir Merzbo, il y a toujours quelque chose qui fait que ça adoucit un petit peu ça.
Ah bah c'est sûr. Et cette acoustique, ça peut être aussi certaines subtilités qui sont noyées et qui font que il faut voir.
Ouais. Mais c'est intéressant, mais du coup c'est quand même une problématique assez majeure de la programmation à Saint-Méric, qui est chouette, mais il faut savoir jongler avec ça.
Il y a aussi ces résonances là avec les bols.
Et je trouve que ça faisait du sens.
Le même jour, pendant qu'on y est, on va faire
On fait la soirée du 22. Après, on reviendra sur la soirée du 21. Le même jour, il y a Anna Hartmann.
Alors, c'est la Suède.
C'est la Suède.
l'habitude de la Norvège, mais non.
C'est la Suède, mais Anna, elle habite à Berlin depuis la fin des... Je dirais depuis le début des années 90, donc depuis très longtemps.
Et c'est aussi de l'ordre de l'installation, c'est ça?
Alors, Anna Hartmann, elle se définit plutôt comme une musicienne de musique concrète.
Ouais.
Elle fait beaucoup de pièces de création radiophonique. Des pièces radiophoniques qui sont souvent des commandes de la radio allemande, parce qu'en Allemagne il y a Deutsche Radiokultur qui a un programme de commandes radiophoniques qui est très très développé. Et elle a fait beaucoup de compositions qui sont assez belles. Elle met avec des choses qui sont mises un peu en espace. Moi je me rappelle, j'avais vu une
c'est joué quoi.
Ouais, c'est joué, c'est comme une installation qui est jouée. J'avais vu quelque chose dans un endroit à Ausland à Berlin où il y avait plein de sacs en plastique gonflé, des petits ballons en plastique, ou des sacs en plastique, je ne sais plus, qui étaient gonflés, qui pendaient, avec différents éléments de percussion autour, quelques percussionnistes, et en gros, la pièce consistait à éclater les ballons en se déplaçant dans la salle, et puis créer une forme à partir de ces impacts. Et là, j'ai choisi un extrême, on l'écoutera peut-être un petit peu après, où on va entendre son travail. Alors, c'est un extrait, ça s'appelle Black Bat, c'est sur un disque qu'elle a sorti, je crois, en 2015 ou en 2016. Mais c'est
et là, j'ai noté, c'est dans le programme Defrost, c'est le nom d'une nouvelle composition spéciale.
Defrost, c'est le nom de son solo. Parce que moi j'avais déjà vu des compositions d'elle, des pièces qu'elle avait écrites, pas forcément elle qui les jouait d'ailleurs, et je trouvais que c'était chouette de lui donner une carte blanche, et du coup je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire, et elle m'a dit qu'elle avait travaillé un nouveau solo. Alors je crois que dans son solo Defrost, qui veut dire décongelé en français. Décongelé en français.
Décongelé, ouais. C'est du français. Je,
je pense qu'elle utilise des techniques de décongélation. Alors je sais pas si comment elle fait ça. Peut-être avec des craquements qu'elle amplifie.
Peut-être. Hartmann et Tomoko Sauvage. On l'a vu plus de fois.
On l'a vu plus de fois, mais je trouve que c'est un bon contexte.
On écoute peut-être alors.
Anna Hartmann s'appelle Black Bat.
Black Bat.
Thank you.
Hanna Hartmann.
Klar.
Laurent. En suédois.
Absolute, absolute. Yo, absolute, précise.
Alors, je reprends en français maintenant. Black Bat, c'est la chauve-souris noire.
C'est exact,
c'est exact,
Laurent.
Ouais. C'est pas un peu redondant comme titre?
Alors, tu pourras en parler à Anna quand tu la verras jeudi, puisque vendredi 22, quand tu viendras au concert.
Ouais, on aura beaucoup de questions à poser du coup, là, pendant ce festival. J'espère que je serai pas tout seul à intervenir pour poser des questions, mais j'ai jamais vu des chauves-souris.
Il pourrait y avoir des auditeurs de Radio Libertaire qui viendront poser des questions.
Comme chaque année.
Ouais, bien sûr.
Parlez-vous et vous vous rendrez
compte. Ouais, bien sûr.
C'est certain. Et on remarque quand même que nos auditeurs sont souvent un peu classe, quoi.
Ah bah, mais pas qu'un peu.
Pas qu'un peu. en tout cas, ce truc de chauve-souris, il y a le truc de, comment on appelle ça, de sonar. Tu sais, les chauves-souris, elles balancent des sons, puis ça revient. Ouais. Enfin, c'est des ultrasons, je crois. Je suis pas un spécialiste
des chauves-souris.
Des chauves-souris, mais
c'est des ultrasons. C'est des ultrasons.
Donc là, je pense que c'est ce qu'on entendait tout à l'heure avec les interférences ou les vibrations. Moi, ça.
Toi, ça t'évoque ça, ouais, c'est bien.
Ok, 2015, c'était donc il y a deux ans, une création de Hanna Hartmann. On en parlait, peut-être ça vaut le coup aussi de le reprendre un petit peu en antenne, ce qu'on disait sur l'intérêt de voir les choses. C'est vrai que là, c'est un concert, c'est un lieu, c'est aussi important de, à la fois d'avoir un côté visuel quelquefois, et puis là que ça peut prendre du sens. Quel est l'intérêt de...
On en discutait un petit peu donc en antenne, mais l'année dernière on avait invité un artiste qui s'appelle Lee Patterson, qui est quelqu'un qui, en gros, il travaille par exemple, pareil, avec des hydrophones. Donc on en parle deux fois, mais un hydrophone, c'est un micro qui va dans l'eau. Il prend par exemple un verre d'eau, il met une aspirine ou de la craie, plutôt, et du coup ça libère du gaz et ça fait un espèce de petit pish comme ça. Il amplifie ça, il le fait passer dans une table de mixage et puis il construit son travail comme ça. Il y a aussi un truc qu'il faisait, Lee Patterson, c'est-à-dire qu'il prenait des coquilles de noix qu'il enflamme et ça fait des espèces de craquements qu'il amplifie et qu'il utilise dans sa musique. Et on l'avait invité l'année dernière.
Un microscope auditif, quoi.
Et l'église est grande et il jouait loin et on voyait pas très bien ce qu'il faisait. Et je trouve que parfois c'est intéressant.
Du coup, la magie venait de qu'on entendait des choses qu'on ne voyait pas.
Voilà. Et là, je trouve que parfois c'est aussi intéressant quand le procédé est assez simple et assez intelligible. Je trouve que c'est chouette. Parfois, ça dénature pas du tout la musique, qui est pas du tout de mystère. Au contraire, que ça soit très transparent. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la démarche d'Hanna Hartmann. C'est quand on parlait de ses compositions, c'est de la musique concrète qui est jouée en direct. Et c'est-à-dire que on voit que c'est des sons du quotidien qui sont utilisés, du coup on voit la forme des morceaux se développer au fur et à mesure et c'est très très clair, la construction est extrêmement claire.
Donc la musique concrète au carré en fait.
Voilà,
exactement. Les sons sont vrais, mais même les objets utilisés pour produire le son. Donc tout ça c'est vendredi 22 septembre prochain à l'église de Saint-Méry, 20h30, Tomoko Sauvage, L'on s'aime, une pièce de John Tilbury qui est un peu l'invité phare, on va dire, du festival.
Oui, c'est pas la première année en plus qu'on l'accueille.
Et je me souviens qu'il avait joué les pièces de Cage là.
Ouais, absolument, Ed Feldman.
C'est un spécialiste, c'est même le spécialiste peut-être de ce répertoire-là. Et Hanna Hartmann, donc qu'on vient d'entendre pour finir la soirée du 22 septembre. Alors on remonte encore le temps, enfin, le futur. On va en arrière dans le futur.
On va en arrière dans le futur, bien sûr.
Et on arrive au jeudi 21 septembre, c'est l'ouverture du 6e festival Crack et
Back to the Future. C'est super.
Et c'est c'est Claire Bergeron, donc comment on entend, est-ce qu'on en dit quelques mots,
on peut en dire quelques mots,
dire de toute façon quelques mots, mais avant ou après,
on écoute et après on en dit quelques mots.
Ça me paraît bien.
Claire Bergeron, on va écouter donc un solo de voix et un morceau qui s'appelle Arc.
Claire Bergerot en solo à la voix dans les oreilles libres. C'est sur son... Non, c'est sur son label peut-être que
c'est
on
sur
trouve
son
ce,
son
ce
label,
très beau
ouais,
disque avec
qui
des photos,
s'appelle Orchesme.
Orchesme, voilà.
C'est ça son
exactement,
label.
Ouais. Donc je recommande chaudement cette, ce disque-là à tous nos auditeurs. On en avait entendu un petit bout lorsqu'on avait fait l'émission sur Revue et Corrigée, parce que
d'accord,
ça faisait partie des morceaux qui avaient été chroniqués dans Revue et Corrigée. Donc si vous voulez réécouter cette émission-là avec Barbara Dang, c'est toujours possible sur notre site internet lesoreillesfree.fr. Vous pouvez écouter toutes les émissions, celles qu'on a fait avec Louis Laurin, toutes les émissions de Crack des années précédentes,
c'est des années 70.
Alors,
elles
pas
étaient bien
même,
celles-là,
mais y a, dis donc, il y a une certaine matière. Voilà, bon, on a tout gardé. Bon, faudra qu'on fasse un peu de tri peut-être un jour, mais pour le moment, il y a pas mal de choses. Donc, profitez-en. Et il y a beaucoup de choses à dire sur Claire Bergerot, déjà qu'on adore.
Alors, j'ai une petite citation de Claire Bergerot qui parle de son travail. Je crois que c'est d'ailleurs dans une interview dans Revue et Corrigée, parce qu'il y a une très grande interview dans Revue et Corrigée de Claire Bergerot que j'ai lu un petit peu avant de venir, parce que j'ai un petit peu fait mes devoirs, qui dit « Je pars d'un son le plus basique possible, je détaille ça. C'est comme lorsqu'on regarde dans un microscope. » Il y a un autre monde qui s'ouvre. Voilà, c'est comme ça qu'elle décrit son travail. Et je trouve que c'est bien parce que c'est une belle façon de, je crois aussi, d'appréhender la musique qu'on propose au festival en général.
Cette oreille là, cette écoute là, comme ça. Et alors, il faut aller peut-être détailler un petit peu parce que si j'ai bien regardé justement le programme, c'est Stick Slip ce qu'elle va faire.
Voilà.
C'est-à-dire que là. On a entendu juste la voix, mais elle est aussi accordéoniste. Et il va y avoir, donc, à l'ouverture de Crack jeudi prochain, en fait, un solo avec la voix et l'accordéon. Et on retrouve, à mon avis, un peu le principe là, dont on parlait aussi avec l'histoire des laminaires. C'est-à-dire que les couches sonores, que ce soit la voix ou l'accordéon, sont à la fois singulières et en même temps peuvent se mélanger, avoir des grains qui se touchent, qui se frottent ou au contraire s'étaler. Enfin, il y a un jeu aussi comme ça de couches. Alors, on le lira pas, mais je vous invite à le faire. Je crois que c'est sur son site. Elle explique cette histoire de stick clip avec stick slip.
Ouais.
Avec, parce que c'est un nom technique.
Ouais, je sais plus à quoi ça fait référence.
De surface, je crois, vibrante, superposée. Donc, ils vont s'accrocher.
Ouais. Mais je crois que dans l'interview que j'avais lue, elle disait qu'en fait, elle était. Donc, à la base, Claire, elle avait un parcours. Elle vient, je crois, de la musique. Elle avait fait du piano, puis après, elle a du chant lyrique. Puis après, elle a découvert l'improvisation, mais elle était plus dans une démarche un petit peu différente. On va dire quelque chose qui était plus de l'ordre de des improvisations, un peu plus dans le lâcher prise, et quelque chose qui était et qu'elle a je crois qu'elle a un peu renié après, enfin je parle en son nom, mais de toute façon elle est sympa,
on la connaît bien, on fera un rectificatif dans le prochain
mais a priori un petit coup de latte, un petit coup de boule, mais c'est pas grave,
t'as l'habitude
de dire des conneries de et elle dit, et donc du coup, donc elle a commencé à travailler la voix, elle a fait solo, et puis au bout d'un moment je crois qu'elle a été un petit peu lassée par le fait de travailler en solo, et c'est vrai que c'est très difficile de travailler un instrument monophonique en solo, parce que du coup c'est vraiment presque un dialogue en fait avec du silence, on construit sur du silence dans le morceau que vous avez entendu, il y a énormément de silence, et du coup c'est vraiment
et ceci dit
elle disait que par exemple qu'elle n'utilise pas de respiration continue pour pas faire des sons continus, parce que justement elle aime bien cette part de silence, et du coup là avec l'accordéon, bah, je l'avais vu début septembre dans une journée qui avait été organisée par des gens qui faisaient des concerts à Couronne, ça s'appelait Le Détail, qui était une petite salle qui a duré qu'un an, mais ils avaient fait énormément de concerts, Charlie et Lynn. Voilà. Et ils avaient organisé quelque chose en septembre qui était dans qui était à Saint-Denis, une journée à Saint-Denis. Ouais. Et moi j'avais joué en solo, et Claire avait joué son solo, et elle avait joué donc son solo, Stick Slip, qui est avec accordéon et voix. Et elle je crois qu'elle pense vraiment ça comme un duo en fait. Et elle utilise sa voix pour, par exemple, voilà, c'est utiliser des techniques de rajouter des couches, comme ça, essayer de mélanger les sources, c'est parfois vraiment faire un dialogue entre les deux sources sonores qui sont la voix et l'accordéon.
On l'invitera dès qu'on peut, Claire Bergerot, comme ça elle viendra nous parler
de
tout son travail.
Mais je pense que c'est. juste pour finir, mais l'idée aussi c'était d'avoir une performance acoustique dans l'église. Et alors je crois que Claire va jouer sans amplification du tout pour vraiment faire entendre l'église en fait. Parce que je pense qu'il y a aussi, vu qu'il y a beaucoup de silence dans son travail, je pense qu'il y a vraiment cette dimension-là qui est de faire entendre l'église et d'écouter l'espace qu'il y a dans l'église. Et je pense que c'est ça qui est vraiment beau aussi. Parfois quand on y est, on n'écoute pas forcément cette église. Et quand on écoute un concert et qu'il y a du silence, du coup on écoute l'église. Et parfois il y a les gens de la place d'à côté qui font du djembé. Il y a eu un concert d'AMM à Sonic Protest où il y avait un mec qui jouait à la Panthère Rose. Mais c'est bien, c'est bien.
Moi j'aime bien qu'il y ait un horizon sonore vaste. Mais juste aussi pour finir avec cette histoire de voix, c'est vrai que l'écueil souvent c'est que la voix c'est souvent chargé de beaucoup de d'émotions, d'intimité, de choses avec lesquelles il faut se dépatouiller. C'est pas simple. Alors Claire a ce côté limpide et direct. Venez écouter Claire Bergerot en solo, duo, voix, accordéon, stick, slip.
C'est ça.
Le jeudi 21 septembre, premier jour du festival.
Et vous pouvez aussi vous inscrire à un stage d'improvisation qui est animé par Claire. Voilà.
Absolument.
Alors c'est pas que pour les vocalistes. Tous les instruments sont les bienvenus. Alors, il reste vraiment que très très peu de place, mais il en reste un petit peu, donc j'en parle. C'est vendredi et samedi.
Okay.
Donc 22 et 23, ça se passe à Saint-Méry.
C'est pendant la journée,
ouvert, ouais, c'est la journée. C'est de 10h à 16h30 avec une pause déjeuner. Ouais. Donc c'est ouvert aux musiciens amateurs, professionnels, hein, absolument tout le monde. Ça se fait un peu dans le prolongement de ce qu'on fait nous à l'année à Saint-Méry. Alors c'est animé par les musiciens de l'ONSEM, spécifiquement d'ailleurs. Jean-Sébastien Mariage, Benjamin Duboc et Stéphane Rive.
Et Louis Laurent un peu
Plus Louis Laurent. Non. Il a été, oui, il l'a fait.
J'ai été viré.
En ce moment, c'est plutôt les Benjamin, Jean-Sébastien et Stéphane qui le font.
Ouais.
Donc c'est ouvert, pareil, aux amateurs et aux professionnels qui ont envie de travailler un peu sur l'improvisation. Et ça se passe le mardi soir. Donc là, celui-ci, c'est toute la journée, donc c'est vraiment un travail un peu plus poussé, et on est très content que ce soit Claire qui le fasse, parce qu'il n'y a jamais eu encore de voix, et parce qu'elle est, on n'a aucun doute sur le fait que ça va être hyper enrichissant.
Et puis parce qu'elle a aussi l'expérience du Lob aussi,
d'improvisation.
Ouais. Donc,
elle est très sensible justement à la question de l'improvisation en grand ensemble, comment s'entendre, comment s'écouter, et ça va être intéressant pour les stagiaires, c'est certain.
Les LONSEM, ça qui a aussi cet intérêt-là de réunir les gens qui ont quand même aussi des profils ou des parcours assez différents.
Ah bah c'est indispensable, il fallait bien sûr que chacun apporte aussi son rapport à l'instrument, son rapport à la musique globalement. Tout à fait.
Très bien.
Je pense qu'on peut parler aussi un tout petit peu avant d'écouter un autre extrait pour les concerts du samedi. C'est un petit peu, on va dire, alors j'aime pas trop ce terme, mais la tête d'affiche du festival. C'est donc le duo de Mark Fell avec Will Guthrie.
Alors c'est une création, c'est ça ?
Alors c'est pas une création, ils ont joué une fois ensemble à Berlin pour un festival, je crois que c'était en mai. Et moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire venir Mark Fell, parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Voilà, Mark Fell, il fait de la musique électronique, et Will aussi, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Et du coup, j'ai vu qu'ils avaient joué ensemble, et je me suis dit que c'était l'occasion de les faire venir. Donc du coup, là, l'idée donc, de ce duo, c'est un duo qui va se passer donc, en multidiffusion. Je crois qu'il y a une petite vingtaine d'enceintes qui vont être mises dans différents endroits de l'église. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire, s'ils improvisent ou s'ils ont une pièce écrite. Je crois que, en tout cas, ça vaut vraiment le détour de voir ces deux musiciens. Mark Fell, c'est un musicien assez rare qu'on voit assez peu, parce que je crois que de toute façon il n'est pas forcément très intéressé par le live. Il est vraiment beaucoup plus intéressé par le studio et par quelques installations. Il fait pas mal d'installations et de choses comme ça. Mais je trouve que
il a le mérite d'utiliser des sons assez typés électroniques, on va dire, mais alors ça devient complètement inouï dès qu'il les met. dans ses compos. Donc c'est assez,
ouais, puis je trouve une très très grande exigence du point de vue de la qualité des sons qu'il utilise. Et il a vraiment un travail qui est, ouais, de la façon dont les sons sont générés, qui je trouve qu'il y a un travail qui se rapproche beaucoup des travaux d'instrumentistes, des instrumentistes qui a, quoi, enfin, de tous les musiciens dont on a parlé, de Claire et tout ça. Je crois qu'il y a une vraie volonté de
limiter,
ouais, de vraiment solo, hein. la musique électronique, l'ordinateur, en fait, c'est rien et c'est tout. Donc on peut tout faire. Et du coup, je crois que d'avoir vraiment une démarche assez un peu réductrice. Enfin, de réduire un petit peu les possibilités, justement, arriver à avoir un résultat qui est quelque chose qui parfois peut être un petit peu austère. Mais je trouve que, en tout cas, la démarche est extrêmement, extrêmement précise. En tout cas. Et je trouve que ça. Enfin, après.
Will Guthrie, il va être amplifié, lui,
alors Will, il va être amplifié, il va jouer de la batterie, il va également jouer pas mal d'instruments résonnants. Du coup, on a demandé des gros gongs, des tams, des cloches tubulaires, et je crois qu'il... Parce que le problème, c'est que je crois qu'ils font le truc qu'ils avaient fait à Berlin, c'était quelque chose avec de la musique, avec pas mal de rythmes très sec, très sec, très saccadé. Et le problème de l'acoustique de l'église, c'est que c'est très résonant. Et du coup, dès qu'on met, si vous mettez un set de techno minimal, ça marche pas dans l'église. Ouais. Ça fait juste un grand brouhaha. Et du coup, je crois qu'ils vont exploiter justement ces phénomènes de résonance. Et après, je sais pas trop ce qu'ils vont faire, mais je leur fais, en tout cas, on leur fait confiance.
Ah, bah on a bien envie.
Voilà. Mais du coup, je pense que ça va être une chouette soirée, puisque du coup, il y a vraiment une grosse. Ces deux démarches, en tout cas, du point de vue de l'amplification, qui sont très différentes entre Claire et Will. Ouais.
Esthétiquement, je pense que c'est très différent. Ouais. Et après, effectivement, dans les deux cas, il y a le rapport à l'espace.
Il y a un rapport à l'espace. Et puis aussi au minimalisme dans une certaine mesure, et la façon dont ils vont avoir de gérer le.
C'est bien de les avoir programmés le même soir.
Et ben
alors, oui, bravo, Louis.
Non.
Non, mais
on va écouter maintenant ce qui va se passer le samedi.
Okay.
Donc le samedi 23, et on va commencer par un morceau qui s'appelle Visitation numéro 2.
Visitation numéro 2, ok.
Et après, on vous dira qui c'est.
Visitation numéro 2. Radio Libertaire 89.4, la voix de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Vous êtes à l'écoute de Les Oreilles Libres pour le Festival Crack 6e édition. Et bon, on n'a pas l'habitude, mais c'est vrai qu'on diffuse aussi de la vieille musique, quoi. Ça,
ben là, c'est ce qu'on a fait.
Un demi-siècle, presque, non ?
Presque un demi-siècle, 47 ans.
47 ans, ouais.
Voilà,
hein,
47
bon,
ans.
Bon, on n'a pas peur hein, de
47
de
ans,
diffuser des antiquités, non. Quasiment, quoi.
Parce que...
Alors, on a dit que ça s'appelait Visitation numéro 2, mais comme ça, je n'ai pas dit toujours qui a écrit cette pièce. Je te laisse le faire, Louis.
Alors, la pièce, donc Visitation numéro 1 et Visitation numéro 2, donc, qui vont être jouées au Festival Crac, qui vont être rejouées, interprétées par le compositeur et son ensemble. Et le compositeur de cette pièce s'appelle John Gibson. Mmh. Alors, John Gibson,
1970.
Pour le. Voilà, donc c'est une pièce qui a été écrite en 1970. John Gibson, pour le présenter un petit peu, c'était un saxophoniste et un flûtiste qui, je crois, au début était. Non, alors il vient de la côte ouest des États-Unis. Et c'est là-bas qu'il a rencontré Reich et tout ça, Steve Reich. Et au début, c'était un musicien de jazz. Enfin, il faisait beaucoup de choses, un petit peu comme à l'image un petit peu de ce que pas mal de musiciens sont ici. C'est-à-dire qu'ils ont plein de casquettes différentes. Et je crois qu'il a étudié au Mills College, qui est un collège, qui est une école de musique à Oakland, qui est de l'autre côté de San Francisco. Okay. Et qui est un peu un endroit un petit peu mythique. D'ailleurs, il continue d'y avoir une très très bonne classe de musique.
Ouais,
là-bas et du coup il est parti en plein Summer of Love, on va dire, au moment
67.
Où tout le monde était dans la rue avec des bandeaux dans les cheveux. Il a décidé, au lieu de jouer dans le groupe des Grateful Dead. Il y a une super interview où il dit justement qu'il aurait très bien pu finir jouer dans les Grateful Dead, et en fait il est parti à New York, et donc là il s'est fait embaucher dans
je
le groupe
qu'il
de
pas non plus mais
sympa quand même les Grateful Dead. Jerry Garcia, moi j'aime bien les Grateful Dead.
Ouais, moi aussi, mais bon, c'est bien, les deux sont bien.
Ouais. et donc il est parti à New York, et du coup il a rencontré un petit peu toute la scène, donc des compositeurs de musique minimaliste de ce moment-là. Donc il y avait Steve Reich, Terry Riley, Philip Glass, et du coup il s'est retrouvé à jouer pendant 10 ans dans le groupe de Terry Riley et pendant 45 ans dans le groupe de Philip Glass, avec lequel il a beaucoup tourné en parallèle à son travail de musicien, de pupitre, hein, qui était c'est entre guillemets. Hein. Il écrivait des morceaux, et un des morceaux qu'il a écrit, ça s'appelle, une des premières compositions qu'il a faites s'appelle Visitation. Et donc la genèse un petit peu de cette œuvre, c'est que en gros il avait récupéré tout un tas de bandes avec des enregistrements de des enregistrements de nature, des enregistrements de forêt amazonienne, des enregistrements de crapauds, probablement des enregistrements de rivière. Et il avait accès au studio par un ami ingénieur du son, au studio de John Lennon à New York. Et du coup ils sont allés dans son studio, ils ont fait un espèce de collage de toutes ces pièces, et puis lui il a rajouté
Que Révolution Number 9 c'est 69 hein.
Ouais, c'est ça. Et du coup il a rajouté des flûtes et des saxophones dessus, et du coup ça a donné Visitation. Et je crois c'est comme après, cette pièce elle a pas été jouée pendant très longtemps, parce que c'était plus, on va dire, une sorte de collage. En fait c'est comme ça que nous on est tombé là-dessus. Il y a une personne qui joue dans cet ensemble, l'ensemble de John Gibson, qui va venir donc à Saint-Méry samedi 23. Il s'appelle Britton Powell, c'est un contrebassiste, et c'est lui à mon avis qui est à l'initiative, on va dire, du revival de cette pièce. Et
des grands compositeurs.
Voilà.
Et donc lui il allait voir ce contrebassiste, j'ai oublié le nom,
Britton Powell, qui joue dans cet ensemble, qui est l'ensemble actuel donc de John Gibson, et je pense qu'il l'a convaincu, enfin ils ont dû travailler ensemble pour proposer une version live de cette pièce.
Et c'est de la musique mixte, c'est-à-dire il y a de la diffusion.
Alors ça je sais pas, mais en tout cas je connais pas exactement la façon dont il la fabrique sur scène, cette musique, mais je sais qu'ils sont 5, il y a beaucoup de percussions, donc à mon avis tous les sons on va dire qu'on appelle des sons de field recording, donc tous les enregistrements que vous avez pu entendre un petit peu avec des sons de nature, sont je crois reproduits par des percussions. Il va y avoir une partition de différentes percussions, il y a différentes cymbales, différentes caisses claires, des tambours et des cymbales. Il y a aussi je crois des synthés analogiques, et John Gibson qui fait de la flûte, et je crois qu'il fait juste de la flûte et du saxophone, ou peut-être d'autres instruments. En tout cas ils refont cette pièce en live, et il y aura une vidéo qu'ils vont diffuser pendant le concert, puisque c'est... puisque nous sommes au 21e siècle et maintenant.
C'est du re-enacting.
C'est du re-enacting. Voilà, exactement. Et qui est une vidéo de John Gibson des années 70, probablement à l'époque.
Ah oui, qui voilà. Sera diffusée de lui,
ouais,
en,
c'est une
pellicule.
En pellicule. C'est une vidéo. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est, mais peut-être un road trip.
Ouais, sur le désert.
Sur le désert. Voilà. Un truc de hippie des années 70.
Sans doute, très probablement.
À tous les coups.
Donc si, bien, vous êtes si vous êtes un ancien hippie et que. Vous voulez
voilà, vous rappelez le bon voilà, vieux temps,
le bon vieux temps, voilà. Venez. Summer of Love, ça se passe à Saint-Méry.
C'est la donc première partie de la soirée du samedi 23, juste voilà. Avant Eddie Prévost et John Tilbury. Donc AMM, on va
AMM,
dire.
AMM, ouais. On les a pas présentés comme AMM dans le sur le programme parce que l'année dernière ils ont joué à Sonic Protest avec Keith Rowe.
Ouais. Donc en tant qu'AMM
et donc du coup c'est sûr que les gens de nos amis de Sonic Protest seraient venus voir. Mais comment ça vous avez AMM mais il manque Keith Rowe. Vous les avez eu pour moins cher. C'est
ah
dégueulasse.
Oui.
Il en manque un.
On m'a vous, on a les dessous de l'affaire comme voilà. Ça. Maintenant,
ah, vous savez, c'est...
vous pouvez venir.
C'est un univers impitoyable, hein, vous savez.
Ah
pareil,
bah,
hein, c'est...
Oui, surtout qu'AMM, ça coûte très très cher. Ouais. Donc, Eddie Prévost et John Tilbury, voilà. Percu piano, c'est la deuxième partie de la soirée et on termine.
Voilà, et pour terminer, alors, il y a un artiste qui s'appelle Pierce Warnecke, qui est un ami à moi, mais que je n'ai pas programmé parce que c'était mon ami, parce que c'est une personne...
oui, ah bon, ça n'est pas le dire non plus, mais parce que moi j'ai souvenir de votre duo, en tout cas.
Ouais, voilà. Mais Pierce, c'est un musicien qui travaille, qui est un musicien de musique électronique, ouais. Et depuis quasiment plus de 15 ans, ouais, il travaille sur la vidéo aussi, ouais. Et il a de nombreux projets. Qui mène ou en tant que musicien ou en tant que vidéaste, notamment un projet avec Frank Breitschneider du Rasternoton, un gros label de musique électronique allemande qui est un peu mythique. Ouais. Et là, il fait la vidéo de la musique de cette pièce avec Frank Breitschneider et il a une installation concert. Enfin, il y a deux formules. Un truc qui s'appelle Perception avec Matthew Biederman qui est un artiste visuel canadien, je crois. Où là, il fait la musique. Et ça faisait longtemps que Pierce il me disait qu'il avait envie de faire un solo avec de la vidéo et de la musique puisque c'est quelque chose qu'il travaille en même temps. Et je me rappelle, il avait fait quelque chose il y a 4 ou 5 ans à Paris dans une toute petite salle, pas très loin d'ici. Enfin, on dira pas où on est, mais on est...
On dira dire dans le quartier, quoi.
Ouais, dans Paris, on va dire. Ah bon, dans l'Est parisien.
Nous
voilà.
Dans l'Est parisien,
voilà. Et il avait fait une pièce que j'avais beaucoup aimée. Et du coup, il voulait faire quelque chose de nouveau. Et du coup, c'était l'occasion de lui proposer. Ça
et
s'appelle.
En tenant compte, du coup, de l'acoustique.
Voilà, de l'acoustique quoi, aussi. Du fait que, voilà, c'est quand même un bel endroit pour aussi. Montrer des choses, faire entendre des choses, mais aussi les montrer. Puis en plus, depuis 3 ans ou 4 ans même, on essaie d'avoir des artistes qui proposent aussi des choses avec du visuel dedans. Ça s'appelle des arts numériques ou des arts visuels ou comment on veut. Et du coup, c'était l'occasion de continuer un petit peu cette tradition, cette jeune tradition à Saint-Méry. Et puis aussi, c'est marrant parce que je crois que. Souvent, les gens qui ne connaissent pas très bien la musique expérimentale ou les musiques improvisées ou ce genre de musique, souvent, ils font souvent référence à... Ils donnent une référence, ils disent « Ah, ça me fait penser à de la musique de film » ou « ça me fait... » Parce que ce n'est pas forcément une musique qu'on a l'habitude d'entendre. Ouais. Et je trouve que ce qui est intéressant avec le travail de Pierce, c'est justement... Il travaille donc, enfin, en général, la vidéo vient illustrer le son. Donc, dans un film, en tout cas, quand vous regardez un film, l'inverse, excuse-moi. Quand vous regardez un film, il y a un coup de feu, vous voyez quelqu'un qui tire, vous voyez un pistolet, enfin c'est très clair. Et dans le travail de Pierce, ce que j'aime beaucoup, c'est justement, il travaille vraiment sur la désynchronisation et sur la mémoire entre le son et l'image.
Donc il problématise le rapport.
Voilà, donc du coup, il essaie de créer. Enfin, moi, dans la pièce que j'avais vue avant, qui s'appelait Memory Fragments, il faisait vraiment tout ce travail sur la mémoire qu'on a au cours pendant une heure, et en faisant des espèces de renvois à certains endroits. Donc on associait un son à une image, et puis il le répétait plusieurs fois, puis ensuite il dissociait l'un ou l'autre, qui fait que ça crée des nouveaux espaces comme ça. Et je trouvais que ce travail-là, il était vraiment intéressant parce qu'il y a souvent beaucoup de vidéos. maintenant qui s'invitent dans les concerts et qui sont parfois juste du collage, qui sont venus plaquer.
C'est redondant quand même.
Ça peut être des fois un peu, je trouve, vraiment un phénomène, un effet de mode aussi. Et là, je trouve quand vraiment il y a une vraie réflexion vis-à-vis de ça aussi. C'est pour ça aussi que je me suis dit que c'était bien qu'il présente.
Cyclic Remains.
Ça s'appelle Cyclic Remains. Il y a toujours un travail sur la mémoire dans ces trucs. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. C'est la création du festival. Et ça se passera donc le samedi 23. Ça sera à la fin. À la toute fin.
Est-ce qu'on récapitule pas du coup avant de les annoncer un petit peu
tous les
renseignements, ça va vite, tu veux le faire
Oui, pourquoi pas. Alors jeudi, on commence avec 21 septembre
2017.
Nous commençons avec Claire Bergerot à la voix à l'accordéon. Suivi de Marc Fell et Will Gulsry. Tout le monde me regarde, j'ai une pression terrible. Pas me planter. Vendredi,
22 septembre 2017.
Donc à partir de tout ça, c'est à partir de 20h30. On ouvre les portes à 20h. Il y a une buvette qui vous attend, bien sûr. Nous savons recevoir.
Plus ou moins
biodynamique.
On ne sait pas encore.
Tu sais que ça dépend. Tu sais de qui ça dépend.
Ok. Venez voir.
Dans l'église. Dans l'église.
Dans l'église.
Oui, une buvette.
Dans Schlager, dans l'église.
Oui, dans l'église.
Indispensable. Donc le vendredi, on aura Tomoko Sauvage qui va donc débuter la soirée, suivi de Lonsem, la pièce de John Tilbury 100. Et enfin,
Anna Hartman.
Samedi soir, nous commençons 23 septembre. 2017. Tout à fait, exactement. Nous commençons avec John Gibson, l'ensemble John Gibson. Hein. Ouais. Ensuite, avec John Tilbury et Eddie Prévost. Et enfin, Pierce Warnecke. Voilà.
L'église Saint-Merry, c'est 76
rue de la Verrerie.
Rue de la Verrerie.
Ne soyons pas trop ambitieux. C'est une petite rue du Marais.
15004 Paris. Bon, plein cœur.
À côté du centre Pompidou.
À côté du centre Pompidou. Franchement, vous ne pouvez pas la louper.
Non.
Surtout si vous avez l'adresse, quoi. 60.
Vous trouvez l'église, vous faites le tour, vous allez trouver l'entrée.
Obligé. Voilà. Derrière la fontaine Stravinsky, là.
Et on a, donc le tarif, c'est 15 euros en tarif plein et 10 euros pour les bénéficiaires des minima sociaux et les étudiants.
En fait, c'est par soir, j'imagine. Voilà. Il y a un pass.
Sinon, il y a un pass pour la soirée à 35 euros.
Pour les trois soirs.
Voilà. Il y a aussi le stage de Claire, 80 euros, qui comprend l'entrée au festival. Ce stage, il reste vraiment très peu de places, mais il en reste quelques-unes, mais en tout cas pas pour d'un pianiste. Hein, désolé, le piano est pris. Pour un autre instrument, voix ou autre instrument.
Ou alors vous amenez votre propre piano, mais c'est peut-être.
Ou alors vous amenez votre propre. Exactement.
Non, bon, allez. Est-ce que Christophe, tu avais des annonces à faire parce qu'il
Alors, c'est ce soir à la librairie Publico à 19h30, rencontre et débat avec Daniel Kupferstein autour de son livre Les Balles du 14 juillet, édition La Découverte. Je vous dis le début du topo. Le 14 juillet 1953, la gauche communiste et syndicale célèbre la fête nationale, comme c'est la tradition, par une manifestation à Paris. Il participe à la fin du cortège plusieurs milliers de militants du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, le parti nationaliste algérien. Quand ils arrivent à Place de la Nation, des heurts se produisent et les policiers tirent froidement sur les manifestants algériens. 6 d'entre eux sont tués, ainsi qu'un militant de la CGT. Et on compte des dizaines de blessés par balle. Pendant un demi-siècle, ce drame va être effacé des mémoires et des représentations en France comme en Algérie. Pour comprendre les raisons de cette amnésie et faire connaître les circonstances de l'événement, Daniel Kupferstein a conduit une longue enquête pendant 4 ans. Et voilà, donc c'est ce soir à 19h30 à la librairie Publico. Et demain, au même endroit, mais c'est à 16h30, il me semble. C'est rencontre-débat avec J. Stern autour du livre Mirage gay à Tel Aviv. Donc c'est à 16h30. Rencontre-débat avec Jean Stern autour de son livre Mirage gay à Tel Aviv, dans lequel il dévoile une nouvelle forme de propagande décriée tant par les homosexuels palestiniens que par les militants radicaux LGBT israéliens, juifs comme arabes. Voilà, donc c'est demain à 16h30, librairie Publico, c'est 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Quelques concerts également ce soir, aux Instants Chavirés, 7 rue Richard Lenoir, Happy Wiz, Darfour, qui est un trio avec nos amis Jean-François et Ben des Instants Chavirés et Philémon. Et We Use Cookies, avec c'est l'excellent solo de Simon Enoch. C'est ça, hein,
Absolument, c'est tout à fait ça.
Ça, c'est excellent. Ce soir également, à l'Espace en cours, L'adresse de l'espace en cours, c'est rue de la Réunion.
Rue de la Réunion, 50 rue de la Réunion, bravo. 20e.
Bravo, donc c'est un trio Lara Hanson avec nos amis Pablo Cueco et Mirta Pozzi. C'est un drawing performance. Je crois que c'est de la musique avec du dessin. Et je voudrais aussi vous annoncer, c'est mercredi à Tiassy, l'adresse de Tiassy.
Rue de l'Aqueduc.
Rue de l'Aqueduc, dans le 10e arrondissement de Paris.
Un formidable et merveilleux duo.
Alors, Laurent est atteint d'un syndrome qui s'appelle.
Ah, mais on en parlera.
Bon, on en parlera. Donc, c'est mercredi 20 septembre à 20h, on va dire. Merveilleux duo de Michel Doneda et Fred Marty. Voilà, ben, je crois que la semaine prochaine nous recevons un jeune musicien, un jeune trompettiste, Timothée Coste. Merci à vous d'avoir participé avec brio.
Bah, merci à vous, hein.
C'est toujours un plaisir de venir
dans vos bureaux secrets.
Et on se quitte avec et on se quitte avant de laisser la parole à nos amis de Dies Irae. C'est
Pierce Barnecke, Cyclic Remains, qui va clôturer le prochain festival Crack à l'église Saint-Méry.
Eh ben merci, en tout cas, merci à tous. Et
merci Glantine, merci Louis.
Merci Laurent.
On a le droit de dire encore quelques bêtises pendant quelques secondes, ouais. Et après, il faut qu'on arrête, je crois.